T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs.
Hey, you talking to me?
Vers l'infini et au-delà.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Podcast nouveau format, puisque nous avons décidé de vous présenter les quatre univers de Kifim sous la forme de quatre podcasts différents que nous diffuserons du coup un petit peu plus régulièrement. Au lieu d'avoir 2 heures toutes les 6-7 semaines, on va essayer de vous faire une demi-heure toutes les 2 semaines, un truc dans le genre. Sans plus attendre, nous commençons avec le premier univers, à savoir les films. J'ai avec moi autour de la table aujourd'hui Christophe Chenin.
Salut.
Monsieur l'Ours.
Salut.
Guillaume. Docteur Mad Geek.
Docteur Mad Geek.
Il s'appelle Glenn en fait, mais faut pas le dire.
Salut.
Et moi-même, ATLZA. Pas de news aujourd'hui. On a notre chroniqueur news favori et jeune papa est encore absent. Donc on enchaîne direct avec les films. Glenn, tu commences.
Salut. Donc moi, je vous parle de Captain Marvel. Et ouais, pour une fois, donc petite déception. Voilà, d'habitude, je préfère parler des choses que j'aime. Là, on n'a pas passé un mauvais moment, mais donc pas besoin de faire une grosse présentation. Hein, c'est Marvel qui arrive avec un petit apéro avant Endgame. Et bon, ce qui est intéressant à noter avec Captain Marvel, c'est quand même que d'abord, il a été créé en 1940 par Fawcett Publications. Et racheté par DC Comics en 1972. Oh. Et avant, chez Marvel, ça a été le pseudo d'au moins 7 personnages. Et avant, chez DC, il y avait un Captain Marvel qui, aujourd'hui, s'appelle Shazam, et qu'on va bientôt voir à l'écran.
Et Captain America dans tout ça
Captain America, c'est son frère. Et celui qu'on voit dans le film, parce qu'elle a plein d'univers, celle qu'on voit dans le film, c'est donc Carol Danvers, que avant on connaissait comme Miss Marvel. Voilà, en fait, pour ceux qui aiment les comics et tout ça.
J'ai déjà rien.
Bah ouais, c'est un peu n'importe quoi et c'est tout le problème, enfin c'est un des gros problèmes du film. Franchement, on s'ennuie un peu quoi, on sent que c'est un film chewing-gum, ça suit au millimètre, tu vois, les scénarios Marvel, il y a aucune surprise. Bon, ils ont mis le paquet sur les effets spéciaux autour du personnage, c'est tout.
Mais c'est bien fait ou c'est bouilli de pixels?
Non, c'est assez bien fait, mais c'est hyper gâché par un côté cheap de la production. On se croirait, toi, aux plus belles heures encore. Allez, je suis sympa des Star Trek première génération pour les masques d'aliens et compagnie, quoi.
C'est cool.
Le truc, c'est que c'est un film, on essaie de t'apprendre plein de choses, parce qu'en fait, le film, il est vraiment uniquement là pour te présenter le personnage Captain Marvel, parce qu'il va tout dégommer dans Avengers qui arrive, pour foutre la nique à Thanos, sans doute. Et ça, c'est le deuxième, gros problème du film, c'est qu'en fait, arrive dans le DC, dans le universe Marvel, un personnage complètement cheaté, quoi. Il est plus fort que tous les super-héros qu'on connaît, ou tous les dieux réunis.
En même temps, c'est le principe des films super-héros, maintenant, c'est la surenchère, quoi. X-Men, ils sont dans ce travers-là également, quoi.
Bah après, bon, moi, c'est le seul intérêt que j'ai trouvé au film, en fait, c'est les questions qui va amener. À se poser.
Des jeunes questions. Nous, on ne connaît pas vraiment. Qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir?
En fait, elle a été irradiée par un noyau avec une force super spatiale de l'espace, extraterrestre, machin.
Ouais.
Et ses pouvoirs, c'est elle peut voler. Et puis, elle canalise une sorte de radiation dans ses mains, ce machin. Mais c'est pire que Superman, quoi. Dans le film, enfin.
Mais alors, comment ils font le rapport avec les autres Marvel,
en fait,
sachant qu'on l'avait jamais vu.
Alors ça c'était une des promesses du film qui rend le truc hyper déceptif aussi, c'est que c'était, tu sais, on était habitué un peu avec des Marvel, t'as un Marvel un peu chinois, Doctor Strange machin, ou un peu tibétain, t'as un Marvel, tu vois, Black Panther, t'as un Marvel, voilà, africain, bam bam, tam tam bidule. Et là, on s'attendait à un Marvel à la Stranger Things, en fait, années 90. C'est ce qu'ils nous avaient vendu, tu vois, gros revival des années 90. Et à part le fait que le personnage, le truc commence dans chez un loueur de DVD, oh, c'est vraiment vintage, il se passe rien. Et même les musiques où ils auraient pu faire quelque chose, ils continuent de nous faire le coup du on prend une musique des années 80 qu'on repimpe, tu vois, une sorte de. Une nouvelle interprétation, quoi. Alors qu'il suffisait de prendre les vraies musiques des années 90 pour donner le ton, quoi.
Ouais, parce que ça, c'est. Ils font ça, ils sont toujours le cul entre deux chaises. On va parler des années 80 pour récupérer la génération trentenaire et compagnie, mais en même temps, il faut attirer les petits jeunes de 13 ans, qui n'ont strictement rien à foutre des années 80, parce que c'était la génération de leurs parents. Et du coup, tu constates sur plusieurs de ces films où bah, voilà, ils ont le cul entre deux chaises et ça donne rien.
Ouais, mais les plus jeunes, ils peuvent quand même écouter de la musique un peu plus vieille.
Ouais, mais sauf que commercialement, ça les attire pas.
Ça leur évoque rien, quoi.
Ouais, c'est ça.
De souvenirs, quoi. Mais du coup, il y a quand même un enjeu un peu, entre guillemets, dramatique dans l'histoire si elle est très forte. En général, les origin stories, c'est tu te bats contre un ennemi, un méchant qui va te forcer à évoluer, quoi.
Là, il présente le personnage très rapidement, moins de deux heures, hein, puisque t'as quand même une petite demi-heure derrière de résolution de l'histoire. Mais en gros, tu comprends que c'est une terrienne qui a été enlevée par les Kree. Voilà, une race de guerriers, truc machin, qui veut se battre contre les Krulls ou les Skrulls ou les machins, tout ce que tu veux. Qui eux ressemblent à Diabolo dans Dragon Ball Z, tu vois un peu le.
Ah merde, je pensais que d'ailleurs dans Satanas
et
Diabolo.
Et du coup, ils lui font croire qu'ils lui ont mis une sorte d'implant qui contrôle ses pouvoirs et qu'ils peuvent lui reprendre. Et alors qu'en fait, voilà, il va se passer des choses qui font que bah, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et voilà.
Spoil pas.
Non mais de toute façon, ce film n'a aucun enjeu, tu vois, comme dit l'ours.
C'est juste pour présenter la suite.
Ça n'a aucun enjeu, c'est vraiment pour te dire.
J'ai l'impression que ça arrive Denver, plus souvent maintenant de faire des Marvel qui sont là pour faire une transition.
T'as vu ça un peu avec Wonder Woman qui était amenée dans. Dont je sais plus quel film.
Elle débarquait à la fin de Batman,
Superman, ouais. Après, elle a eu son propre film derrière.
Un film magnifique.
Mais c'est vrai que dans les derniers Marvel, j'avais quand même l'impression qu'il y avait. Enfin, il n'y avait pas trop ce truc-là, quoi.
Mais non.
Mais tu racontes. Donc ça allait, mais effectivement, ils sont peut-être en train de revenir.
Là, ils ont essayé de te présenter un personnage un peu. Déjà, le film, clairement, s'aligne sur Wonder Woman. C'est un pamphlet féministe. Mais vraiment couillu, quoi. Genre, à un moment, c'est les deux nanas pilotes de chasse, c'est Top Gun, quoi. Donc. Mais il débarque derrière Wonder Woman qui avait vachement bien réussi.
Ouais, c'est féministe au sens masculin du terme. Quoi.
C'est ça.
Exactement.
C'est féministe en essayant de se comporter comme un mec.
Voilà, exactement. Donc c'est complètement raté. Et donc ils essayent de donner des racines à ce personnage qui en plus cherche ses propres racines parce qu'elle a tout oublié, blabla. Donc hyper difficile de s'attacher à un personnage qui connaît lui-même même pas son passé, quoi, qui est en train de chercher le truc bidule. Et quand enfin tu le découvres, bah, là elle devient archi indestructible. Donc tu peux pas t'attacher au truc, t'as pas d'enjeu, y a pas de risque, y a pas de truc. Donc
est-ce qu'il a marché le film ?
Le personnage, il est. Oh, alors là, moi, je regarde pas les sorties, j'y vais plutôt au cœur. Là.
Parce que j'ai l'impression qu'il est pas resté si longtemps. Là.
Il est déjà si, je crois qu'il fonctionne très bien, ouais.
Ah
ouais. Ouais.
Alors il y a quand même un ou deux points positifs. Alors c'est Brie Larson, là. Clairement, elle fait bien le job. Il y en a qui la trouvent hautaine. Bon, moi, j'ai pas eu cette impression. Par contre, le coup de Nick Fury,
Samuel Jackson, ouais.
C'est ouf. Alors là, c'est ouf parce que tu vois tout le film et il est clairement rajeuni 30 ans, quoi. Et c'est incroyable. Franchement, wow, le travail de dingo. Donc ça, c'est assez plaisant à voir. Il y a aussi ce petit truc qu'on trouve toujours dans les Marvel, c'est ils arrivent à t'expliquer un peu un truc. Donc là, autant il y a la genèse du personnage, mais en plus, on apprend comment Nick Fury perd son œil. Donc là, no spoil. Mais c'est quand même le petit bonus du truc, c'est toujours un peu plaisant pour les. Un peu méta, quoi, et puis tout le monde aime bien. Et puis, bon, par contre, le rôle de Annette Bening, excellente dans plein de choses, par exemple, un film avec Kevin Spacey, là, American Beauty. Elle aurait peut-être eu besoin d'un petit coup de CGI quand même.
Parce que c'était pas
là, elle débarque, enfin. Tu sens que la nana, elle a jamais mis le nez dans un comics, quoi. C'est-à-dire qu'elle est en train elle a un rôle hyper important, machin bidule. Elle pine que dalle à ce qu'elle raconte, quoi. Donc
ils l'ont casté pour le côté sympa de l'avoir dans le film,
Oui, mais il faut ça à chaque Marvel.
Si, c'est d'avoir un qui avait toujours dit je ne ferai jamais de comics, puis en fait il finit par y aller.
Avec un gros sac de dollars. Voilà.
Des gens qui font des films d'auteur.
Ouais.
À part donc sinon scénario moisi, c'est paresseux en plus. C'est paresseux, mais c'est une facilité. C'est ça qui est triste. Tu ressors du truc, il s'est rien passé.
Tu te défonces. Et tu l'as quand même noté 5.
Ouais, 5.
Bah, c'est-à-dire que tu le sauves quand même.
Hein, il explique des morceaux de l'histoire.
Je fais une critique comme ça, je lui mets 3 ou 2. Quoi.
Il explique des morceaux de l'histoire. Tu passes pas un mauvais moment. Et puis en plus, ils font monter la sauce. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 1h25, un petit course d'avion par-ci, un petit truc par-là. Et puis, ils te foutent le budget dans les 30 dernières minutes. Quoi. Et en effets spéciaux. C'est un peu de la soupe quand même. Quoi,
c'est de la soupe, quoi.
Et en fait, c'est vraiment un apéritif pour Endgame parce qu'elle pouvait pas débarquer comme ça. Et les deux scènes post-génériques sont assez sympas. Quoi.
Alors je pensais le voir demain, mais en fait j'étais en train de me dire que j'allais pas y aller.
Ah, y a, franchement, il y a autre chose.
J'avais décidé déjà avant que tu en parles.
Il y a autre chose à voir.
Juste pour te répondre à un truc que tu disais tout à l'heure, Christophe.
Oui.
X-Men, c'est pas terminé. Hein.
Oui.
X-Men Dark Phoenix en juin 2019.
Ah bon,
Exact. Il y en a encore un qui sort.
Mais pourtant, je croyais que les acteurs voulaient plus.
Ah bah oui, mais quand ils font l'échec, ils continuent.
Ah, c'est peut-être pas les mêmes acteurs, parce qu'en fait, il y a les acteurs qui les jouent jeunes.
Puis, c'est la même équipe d'acteurs qui jouent depuis Apocalypse et depuis les trois derniers. Là. Ouais, voilà, c'est Fassbender, McAvoy.
Ils auraient tellement dû s'arrêter après Wolverine.
Non, par contre, c'est Wolverine qui ne. Je crois que c'est l'acteur qui fait Wolverine qui arrête.
Lui, par contre, il a arrêté.
Mais lui, il a toujours fait plein d'autres trucs, quoi.
Oui.
C'est vraiment. Il est assez complet, quoi. Mais de toute façon, des problématiques comme ça, il les règle très vite, hein, dans les univers comme ça. C'est Endgame, là, qui va arriver avec Avengers. C'est ni plus ni moins qu'une solution de virer tous les mecs du début pour laisser place aux nouveaux Avengers, quoi. Et en fait, tu constates que ceux qui sont morts. C'est tous les vieux ou perdus sur une planète, c'est les vieux de la première heure, quoi. Et moi, à mon avis, ils sont en train de renouveler les acteurs parce que les mecs ils veulent pas faire ça toute leur vie.
Bah, d'ailleurs, et encore, parce que
c'est la théorie.
Dans Dark Phoenix, c'est l'histoire de je sais plus son nom là, la mutante
Jean Grey.
Et c'est même pas la même actrice.
Alors, c'est la même actrice depuis deux films,
mais c'est pas celle qui a disparu dans la cascade, machin et tout, quoi.
C'est pas les ceux de la première génération de
ça, ils l'ont fait souvent quand même. Ils l'ont fait souvent.
Oui, oui. Moi, c'est un petit détail, entre guillemets, mais je suis vachement intéressé par cette technologie de rajeunissement. Parce qu'en fait, ils l'attestent déjà depuis quelques temps. Parce que je crois que dans Winter Soldiers, il y avait déjà une petite scène où il y avait Robert Redford qui était rajeuni.
Ah, possible.
Dans Les Gardiens 2, il y avait. Comment il s'appelle cet acteur c'est ça. Qui a joué dans Los Angeles, fin du 97.
Snakes, quoi.
Ouais, exactement. Qui aussi lui avait sa petite scène au tout début du film.
Kurt
Russell, c'est ça. Et en fait, ça ouvre quand même la porte à plein de trucs un peu cool. Et
surtout pour les mecs qui aiment leurs acteurs et tout ça, quoi.
Ouais, et après là on va vers autre chose, mais il y a aussi le truc de doublure numérique et, qui peut aussi être un peu associé à ça, parce que qui dit qu'à un moment donné on sera pas capable de faire des visages parce qu'à mon avis en gros ça doit être une surcouche 3D qu'il a sur la tronche,
ouais, c'est ça, c'est un vrai acteur qui joue et on lui colle ça sur le sur.
Mais ça, c'est la même techno pour coller des visages d'actrices connues dans les films porno,
ouais, ou faire parler Poutine,
c'est ça, ouais.
Ok,
voilà,
d'accord.
Donc c'est passable. Franchement, on s'en souviendra pas. Des Captain.
Ok, d'accord. Bah, j'enchaîne. Puis moi, je reste un petit peu dans le même univers, puisque je parle de Spider-Man New Generation ou Welcome to the Spider-Verse. Alors, sachant que moi, je suis complètement ignare dans ces trucs-là. Déjà, j'y connais rien. Et en plus, les Spider-Man, j'avais fait définitivement une croix dessus. Après je sais plus le 2 ou le 3, un truc comme ça, voilà, mon avis était fait, c'était de la merde. Clairement, c'était mon avis. Et puis au détour d'une soirée où j'avais strictement rien à foutre il y a quelques temps, j'avais regardé Venom. D'ailleurs, on en avait parlé, je crois, à un moment, enfin bref, là n'est pas le sujet. Et à la fin de Venom, petite scène justement post-générique qui amenait ce Spider-Man film d'animation, quoi. Et c'est vrai que c'était tentant, quoi. Donc voilà, hop, ajouté à ma liste de films à voir, là, je l'ai regardé récemment. Donc on est donc face à un Spider-Man, donc à un nouveau et énième Spider-Man, mais en film d'animation. Et avec, une nouvelle histoire qui, pour une fois, a une certaine cohérence avec la suite, puisque de toute façon, il commence en fait par buter Spider-Man, l'ancestral, là,
Peter Parker.
Et bon, bah forcément, dans le même temps, hop, il y a un gamin qui se fait aussi piquer par une super araignée et qui doit apprendre à devenir Spider-Man. Ça, c'est un peu pour le pitch d'origine. Donc le premier point, donc film d'animation. Le premier point, c'est le graphisme qui est vraiment excellent. Enfin, c'est très très chouette, vraiment super. T'as un mélange de. Enfin, Glenn t'en parlera peut-être mieux que moi, mais T'as un mélange pour moi de films d'animation, de dessins animés et de comics. Mais comics au sens BD, puisqu'ils amènent, du phylactère, ils amènent comme ça là, les cris un peu, enfin et tout.
Les onomatopées et tout.
Putain, c'est énorme. Enfin, et dans le dessin. Et tout ça se marie très très bien et donne un graphisme au film qui est très très bien, qui est vraiment super chouette.
Qui est nouveau surtout, quoi.
C'est
jamais vu, quoi.
Ouais, enfin, c'est hyper bien amené, enfin, c'est fluide, quoi. T'as pas l'impression, tiens, tout d'un coup, pourquoi il y a une espèce de truc comique au milieu du film d'animation, quoi. Pas du tout, ça.
Alors, c'est nouveau,
ça marche bien.
Je l'ai pas vu, mais ça me fait penser à Scott Pilgrim. Dans un autre.
Ouais, mais.
Il y avait ce truc un
voilà,
peu de.
Mais Scott Pilgrim, t'as ça, mais sur de vraies images. Mmh. Alors que là, t'as ça, mais c'est que du dessin. Mmh. Enfin, c'est ouf. Et puis, t'as l'impression de voir un. Parfois, t'as l'impression que c'est qu'il y a eu de la motion capture ou du cel shading, tu vois, parce que c'est ouf, quoi.
Bah, tu frôles des fois l'image de synthèse, vraiment.
Ah oui, complètement.
Ouais. Avec un dessin qui est. On en reparlera de ça tout à l'heure, peut-être. Enfin, toujours est-il que, ouais, donc graphiquement, ça vaut le coup d'être vu déjà, rien que pour ça. Donc, pour cette partie-là, donc on est face à un Spider-Man, mais on a un Spider-Man nouveau, déjà de par les personnages. De par l'histoire et de par le graphisme. Donc déjà, on est « Ah bah ça vaut le coup, faut aller le voir. » Ensuite, le nom le dit, hein, donc c'est Spider-Man Welcome to the Spider-Verse. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va retrouver en fait des ersatz d'autres Spider-Man dans les autres univers. Donc on a Peter Parker sur le retour en quinca dépressif, quoi. On a une Spider-Man qui est en fait donc si j'ai pas de conneries bah c'est comment ça s'appelle sa meuf quoi qui est devenue Spider-Man.
C'est Gwen Stacy je crois.
Donc voilà et ça encore une fois c'est assez sympathique assez nouveau pour qu'on trouve ça cool et puis là après ça merde parce qu'en fait déjà si c'est arrêté là il y avait moyen de faire quelque chose d'assez cool mais ils ont senti le besoin je sais pas quoi d'aller chercher encore d'autres Spider-Man dans d'autres univers qui, pour le coup, sont moins amenés. C'est-à-dire que sur les premiers, ils prennent bien le temps de poser les personnages et sur les deux, trois derniers, plus ça va, moins ils prennent ce temps-là. Donc, les persos sont moins amenés et puis ils amènent pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que t'as ? T'as un espèce de c'est quoi l'animal qui parle ?
Enfin, Spider-Cochon.
Ouais, Spider-Cochon. T'as, enfin, je sais plus. Je me rappelle.
T'as un Spider-Man un peu black, non le bourdon vert, là, comment s'appelle, Green Velvet, tu vois, mais il est en noir et blanc le mec. Il
vient de l'univers. Ah oui, c'est ça, ouais.
Il est en noir et blanc, un peu the comment s'appelle the Spy. Il y avait un super héros comme ça un peu. Et puis t'en as un qui est l'avatar japonais. Ouais. Spider-Man, donc elle, ça c'est une gamine écolière, tu vois, typique, mais qui est dans un robot Spider-Man, une sorte d'araignée robot Spider-Man. C'est un peu...
et du coup, tu vois, moi c'est là que je lâche parce que ça part trop loin, un peu trop en live, alors c'est peut-être fun, mais.
Moi j'ai trouvé ça génial.
Ah ouais, bah moi ça m'a. Déjà, ça a commencé à me galérer. Je dis, tiens, pour moi ils ont pas su s'arrêter. Et puis le problème ensuite, c'est la deuxième partie du film où en gros, outre apprendre. Enfin, l'apprentissage de devenir Spider-Man, on se doute bien que le mec il a une mission et que tu vois il va falloir qu'à un moment il se révèle à lui-même pour aider en fait les autres Spider-Man qui ont de l'expérience à lutter contre le gros méchant parce que c'est lui qui doit faire le truc. Ça, enfin c'est assez téléphoné, il n'y a pas une surprise incroyable quoi. Et arrive ce qui va être la scène de fin, sauf qu'elle dure hyper longtemps et qu'elle a lieu si tu veux dans la machine qui mélange les univers. Et alors là, du coup, c'est what the fuck total, parce que du coup, t'as plus de décor, c'est flashy à mort, les mecs qui rebondissent, tu vois, sur des morceaux de monde. Enfin, t'as l'impression que les mecs, ils avaient tout mis dans la première demi-heure, trois quarts d'heure, en mode on pose, on tout, puis à la fin, de toute façon, on se fait même plus chier à faire des décors, ou est-ce qu'il y a un semblant de crédibilité, ils se battent, enfin, ce serait, je sais pas, ce serait du Dragon Ball, ce serait pareil, quoi. Les mecs, ils se battent comme ça, dans un monde, en rebondissant dans les trucs et les machins, et puis voilà, quoi. Puis du coup, un goût vachement doux amer, surtout que sur cette partie de film là, tout l'effet waouh graphique il est quand même pas fait. C'est-à-dire qu'au début tu bouffes l'histoire, et t'es oh, putain, graphiquement c'est génial et tout, puis ce truc commence, puis ça dure, et puis voilà. Donc je suis un peu mi-fig mi-raisin. Y a vraiment des côtés qui m'ont plu. Alors que je partais vraiment d'un avis négatif, il y a vraiment des côtés qui m'ont plu. Mais voilà, tu retombes dans les travers à la fin, où les mecs ils sont pas. Ils poussent pas le travail jusqu'au bout, tu dis tiens les gars, il y a peut-être moyen de je sais pas, de continuer et autres. Donc un petit peu déçu sur la fin, je pense que je l'ai pas défoncé non plus, je m'en rappelle plus, j'ai dû lui mettre de tête, je pense que ça vaut 7 sur 10. Donc voilà, je suis pas dans le négatif, mais il y a quand même de la déception sur tous ces aspects-là. Par contre, clairement, voyez-le pour l'animation, quoi. C'est vraiment cool, quoi.
C'était la grosse sensation de cet été, effectivement. Enfin, tout le monde en parlait, quoi. Clairement, c'était chaque personne qui allait le voir engagé, enfin, disait aux autres d'aller de se jeter dessus parce que apparemment, il a pas non plus très très bien marché et du coup.
Les gens sont pas habitués à ce qui est beau.
Ouais, ben voilà, il y avait vraiment ce truc de se dire, mais enfin, vous vous rendez pas compte à quel point c'est nouveau et hyper beau. Et c'est des Français d'ailleurs qui sont à l'origine de la DA générale.
Ouais.
Dans la DA, faut rajouter même dans la mise en couleur du truc, c'est même ça, c'est hyper travaillé avec cette méthode un peu, peut-être Glenn, tu sauras le nom du truc, où t'as des un peu avec les points. Les
tramés,
quoi. Pop art,
ouais.
Et ça, tu vois, c'est amené aussi dans l'image et tout. Donc, t'as pas que le trait, le dessin. T'as, dans la mise en couleur, t'as des trucs qui sont.
Moi, je pense que ce que tu reproches c'est au film, c'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire, en fait. Donc, je pense que le truc, pour moi, ça a été c'est hyper réussi. J'ai adoré l'escalade graphique. Et effectivement, c'est du what the fuck à la fin, mais je suis hyper content qu'ils aient. Pour moi, c'est ça, pousser le truc jusqu'au bout, en fait. Et donc c'est marrant cette analyse, tu vois, que j'ai l'impression qu'ils sont pas jusqu'au bout, alors que moi j'ai l'impression qu'ils sont vraiment allés jusqu'au bout du truc et qu'ils ont eu aucune bride et que personne leur a dit non, vous arrêtez les mecs là. Et non, ils sont allés jusqu'au bout. T'as un Fisk, donc le némésis de
Wilson Fisk.
Le mec, quand tu le vois dans le truc, il doit faire 4 mètres de haut, il est taillé en armoire à glace comme ça, 3 mètres de large. Mais il rentre quand même dans une bagnole, tu vois.
Ouais, mais on est dans ça, c'est fun, c'est un côté Sin City peut-être, un truc comme ça, mais en fait, ce que je reproche, c'est pas tellement le graphisme de la scène, c'est la durée et son importance dans le film.
Moi, je trouve ça super équilibré. Les couleurs, c'est ça m'a marqué beaucoup plus. Déjà, tu sais, Suicide Squad m'a marqué en termes de couleurs. Là, on est pareil dans les mêmes des trucs qu'on trouvait aussi dans l'adaptation au ciné avec Scarlett Johansson, là, du japonais de l'animé.
Ghost in the Shell.
Voilà. Pareil, t'as des lumières très néon, phosphos, machin, la nuit bidule, tu retrouves ça très. C'est très criant, tout ça. Moi, j'en ai pris plein la gueule, j'ai adoré. Je l'ai vu en plus dans une salle ice, et donc, quand ils cherchaient Spider-Man sous les débris, t'as des hélicos qui passent, t'es avec des lampes comme ça, et dans la salle, tu vois les gyros qui s'allument aussi dans la salle, les trucs, c'était franchement pas trop mal fichu. Et il y a un gros, gros point positif quand même à ce truc-là, qui est très rarement. Que tu peux très rarement rencontrer dans un animé, c'est la musique. La musique, elle est ouf, quoi. C'est franchement la bande son, tu peux y aller.
C'est quoi, c'est une composition originale ou
non, t'as des reprises, t'as de l'original, mais surtout surtout la musique a été écrite pour le truc, quoi. Toi, c'est chaque scène, la musique, elle fait partie de la scène. Donc ça, c'est pour un dessin animé, ça fait plaisir, quoi. Plusieurs fois, t'es là, toi. Toi, tu marches avec le mec.
Oui, c'est vrai que le mec, l'acteur principal, il est dans un univers déjà musical dès l'intro du film, puisqu'il est au casque en fait. Donc la musique d'intro du film, tu vois, tu l'entends machin et tout, jusqu'à ce que tu réalises que c'est ce qu'il a dans son casque, ce qui est un effet assez classique. Mais le film est lancé par ça, donc effectivement, maintenant que tu le dis, oui, il y a toute une construction musicale autour du personnage, quoi.
Tu dis l'acteur principal.
Le personnage.
Ouais, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui l'a joué. Hein. Ah. Moi, je pense que. Le film a été en partie tourné, mais bon, je me suis pas assez renseigné là-dessus.
Mais bon, dans tous les cas, ouais, voilà, ça reste.
Tu peux trouver sa note moyenne sur Kifilm?
Oui, je peux. Ça reste quelque chose qui est à découvrir. Et tu vois, l'écart peut-être d'avis entre Glenn et moi laisse de la place à la construction et au choix de chacun. C'est pas un truc où on vous dit n'y allez pas.
I agree to disagree.
Allez-y, et puis dites-nous ce que vous en avez pensé, ouais, quoi.
Exactement.
Guillaume,
oui.
Toi, tu changes de décor.
Je fraude totalement.
Alors, attends, juste, je réponds à Glenn. On est à 8 de notre moyenne.
Ah, oui, merci.
Donc, effectivement, moi, je lui ai mis 7. Tu lui as mis 9. Ouais.
Et enfin, c'est clairement une nouvelle un peu. Alors, Pull of the Door, je sais pas, parce que je sais pas exactement comment il a fonctionné, mais en tout cas, il compte, je crois, d'ores et déjà en faire une suite, voire même peut-être un spin-off autour du personnage féminin de Gwen Stacy. Donc, clairement, ils sont en train de se dire.
Ils vont en faire 5.
Une série.
Ah ouais, en fait, je pense que clairement, ils veulent capitaliser là-dessus.
Donc, comme ils l'ont bien fait avec tout le reste. Mais ils vont saccager le truc, quoi.
Ben, en fait, Sony a la licence Spider-Man tant qu'ils font des trucs avec. Donc, ils vont continuer à faire des trucs avec pour pas que Marvel le récupère totalement, quoi.
Donc, mais c'est quand même un beau retournement de situation, quoi, parce que de la part de Sony qui lézardait avant, c'est eux qui ont sorti ce truc de merde là, juste avant de perdre les droits dessus.
Amazing Spider-Man ?
Non, le 3 avec le mec électrique, là.
Ben, c'est ça. Ah oui. C'était Amazing Spider-Man 2 avec Jamie Foxx qui jouait Electro. Ouais.
C'est terrible.
Sur une échelle de 10 à Batman vs Superman, il se situe où à peu près?
C'est terrible. C'était compliqué. Et là, incroyable. Mais c'est multiproduit. Hein. Je crois qu'il n'y a pas que Sony derrière le truc.
Bah, en tout cas.
Je pense d'ailleurs que ça fait. C'est les principaux. C'est parce que c'est Sony que tu as une musique aussi géniale dans le truc.
Ou ce qui doit avoir les droits de plein de choses, quoi.
Faire l'ouverture du film avec le Batman. C'est le truc et tout fait. Bah, c'est un peu aussi pour dire on a des super enceintes. C'est vrai, je suis sûr qu'il y a des, et en plus je suis sûr il y a des images subliminales.
Ouais, c'est peut-être du placement de produit un peu plus subtil vu que c'est en animé que les vieux plans à chaque fois qui passent sur les Mac ou sur les Ford.
Plus belle la vie, quoi.
Ok. Bon, alors Guillaume, tu casses les règles du podcast.
Je sors de l'univers super-héros déjà, et puis je vais vous parler d'un spectacle et pas d'un film. Alors j'ai essayé de le faire rentrer un peu au chausse-pied parce que ça dure à peu près le temps d'un film, c'est visionnable du coup sur un écran. On n'est pas sur Netflix cette fois, on est sur YouTube.
Mais c'est le...
Et voilà, c'est quelqu'un qu'on adore, ou qui a fait des choses en tout cas qu'on a
adoré,
beaucoup aimé, mais qui se faisait un petit peu discret ces dernières années. Donc c'est Ken Kojandi, en effet, ça, excellent. Qui effectivement a mis à disposition sur YouTube son spectacle qui s'appelle Pulsion, donc qui est un stand-up qu'il a fait en 2016. Donc il a fait une tournée en 2016, et on retrouve à l'écriture de ce spectacle-là, ben, du coup, lui-même et Navo, son compère, effectivement, des séries Bref, Bloqué et Serge le Mytho. Tout ça dispo également sur YouTube gratuitement. Donc déjà, je trouve que c'est cool. Enfin, il a vraiment cette démarche, ce mec-là, de clairement parler à un public de gens qui vont consommer des choses d'une manière différente de acheter un DVD ou autre. Mmh. Puisque en gros, pour ce spectacle-là, il a choisi deux manières de mettre à disposition une retranscription de son spectacle. Il a choisi donc de mettre gratuitement son spectacle sur YouTube et d'en faire un bouquin qu'on pourrait un peu définir comme un roman graphique avec le dessinateur Boulet, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Là. Donc voilà. Je trouve que c'est assez... il a sorti du coup Pulsion en... C'est pas vraiment une BD, c'est plutôt un enchaînement de dessins avec du texte a priori. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le feuilleter, mais il a vraiment eu l'idée de se dire « Moi, je ne veux pas faire un DVD de mon spectacle comme tout le monde fait, je veux le transmettre à des gens de ma génération, à des gens qui consomment comme moi des trucs du web, de la BD, etc. » Ouais.
C'est bien, ça.
En plus, voilà, il s'est adjoint les services de Boulet, qui est un mec qui aussi résonne pas mal dans cette communauté-là. Donc Pulsion, c'est quoi? C'est un stand-up vraiment comme on peut se l'imaginer. Il est seul en scène, il a un micro en main, et puis il va raconter des anecdotes pendant 1h10 sur la base de pulsions qu'on peut avoir, des pulsions qu'on a, des pulsions humaines, donc la pulsion de vie, la pulsion de mort, la pulsion d'amour, la pulsion de colère, etc. Et puis à chaque fois il va partir un peu de petites anecdotes de sa vie à lui, alors fantasmée ou pas, on le sait pas vraiment, mais peu importe finalement, comme dans Bref,
il surfe sur Bref,
c'est son personnage, mais en même temps c'est pas vraiment lui, enfin voilà,
t'as envie que ce soit lui, quoi.
En tout cas il le porte bien, quoi. Et ça fait un petit peu penser, enfin bon, après, faut aimer, entre guillemets, le stand-up. Moi, je sais que j'ai, notamment sur Netflix, j'en ai regardé pas mal de gens qui sont un peu connus, du genre Louis C.K., par exemple, qui a, je crois, du coup...
Hashtag Balance Stopper.
Voilà, qui a eu depuis quelques démêlés avec, effectivement...
MeToo.
MeToo.
Parce qu'il avait fait des mêlées avec des petites jeunes.
Ouais, mais non, mais je crois que, entre guillemets, lui n'a fait que sortir son engin et se faire plaisir tout seul face à des gens, quoi.
Ce qui est largement suffisant pour être bizarre.
Ouais. Voilà. Mais bon, peu importe, en tout cas, ces spectacles, on pourra avoir le débat de dissocier l'œuvre de l'homme, mais en tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé son ton qui était très acerbe et hyper... En fait, Louis C.K., sa marque de fabrique, c'est qu'il t'emmène sur un truc drôle. Donc tu rigoles, et en fait, plus ça va, plus il s'enfonce dans un humour qui est assez noir et assez acide, et au bon moment, en fait, il va te faire remarquer, vous êtes en train de rigoler d'un truc horrible, là, vous êtes au courant, quoi. Et là, tu fais, ah vache, il a bien réussi son coup, quoi.
Tu sais que tu parles plus du spectacle d'origine.
Exactement. C'est tout. Mais bon, tout ça pour dire que je suis assez fan de l'univers du stand-up. Je trouve que c'est en général assez rafraîchissant. Et ce que j'aime beaucoup, et ce que fait Kian Kojandi, c'est que ça mélange l'humour, puisque à la base, bah, c'est un humoriste un peu à la française, comme on l'entend, mais aussi avec le drame, ce qui est un peu la marque du stand-up. C'est-à-dire qu'il va assez facilement passer du, comme c'est souvent des anecdotes personnelles ou assimilées personnelles, à de l'humour à quelque chose un peu plus triste, ou de quelque chose un peu plus émotionnel à une pirouette scénaristique qui va faire qu'en fait ça va être super drôle, quoi. Mmh. Et ça, moi, j'adore. Mon maître étalon là-dedans, c'est pas un spectacle, mais c'est Scrubs, qui le faisait très très bien en série. Je suis vraiment très très client de ces gens qui arrivent à te faire rire avec des choses hyper sensibles et en même temps qui, au bout d'un moment, vont te faire avoir la petite larme et qui vont aller te cueillir sur ce genre de choses.
On n'est pas dans le podcast série, hein, sinon direct je dévie sur Scrubs.
Ouais, c'est une série effectivement un peu culte, je pense, pour pas mal de gens. Donc en gros, voilà, les qualités, c'est que c'est drôle, on retrouve l'humour de Bref dans ce côté très effectivement truc un peu du quotidien.
Mais par contre, c'est la grande question. Est-ce qu'on retrouve l'humour de Bref, ou est-ce que quelque part on y va parce qu'on veut retrouver Bref et que du coup c'est pas trop Bref aussi, quoi?
Alors franchement,
là, il faut que ça s'en détache tout en rappelant le truc, quoi.
Je pense que là justement c'était un peu le spectacle où lui il avait cette volonté de vouloir se montrer différemment. Ça n'a rien à voir avec la choucroute entre guillemets, mais quand même c'est un indice, c'est qu'il a perdu énormément de poids et il fait pas mal de blagues sur ce truc là. Clairement tu sens qu'il veut sortir de ce personnage un peu loser et être dans un charisme un peu plus de scène, quoi. Son spectacle en lui-même est pas spécialement estampillé Bref, même si on peut un peu y voir des résonances sur la thématique qu'il traite, quoi, d'un jeune adulte dans la vie, avec les nanas, professionnellement, etc. À la fin, il fait clairement un énorme clin d'œil à Bref, mais il le twist pour en faire autre chose, et vraiment, du coup, tu sens que, en gros, c'est un peu son post-mortem de Bref, quoi. En gros, je fais autre chose maintenant. Et d'ailleurs, je pense aussi que c'est la raison pour laquelle c'est gratuit, c'est qu'en fait, il se sert de ce spectacle pour faire la promotion de son nouveau spectacle, qui s'appelle, je crois, une bonne soirée, dont il est en train de faire le rodage actuellement, quoi. Sur les réseaux sociaux, il en parle beaucoup.
Malin.
Ouais, c'est pas con. Donc du coup, enfin voilà, c'est un spectacle qui est drôle, mais pas genre on va pas mourir de rire, parce que c'est vraiment un humour de contexte et
tu vas passer un bon moment, quoi.
Ouais, mais c'est tendre, en fait. Il y a tout ce truc de tendre, tout ce truc par rapport à l'enfance. Il faut aussi
pas Gustave Parking, quoi.
C'est pas, je ne connais pas cette personne.
What?
Désolé.
C'est un truc de...
Les petits défauts, c'est que parfois ça tombe un petit peu à plat, peut-être. Pour le coup, le côté un peu mix de son humour fait qu'à un moment donné, tu fais ok, bon, effectivement, là je me marre pas, c'est sympa, mais je suis pas non plus en train de me dire waouh, ouais, il vient de me faire un truc de ouf en termes de changement de vie, entre guillemets. Donc je pense qu'il. Enfin, c'est son premier, c'est son premier, donc je pense qu'il y avait du rodage là-dedans. Mais
en même temps, c'est bien qu'un humoriste ne cherche pas toujours à faire.
Ouais, voilà, et ça le rend ultra humain. Enfin, il a vraiment son rapport avec son public.
Regarde les garagistes, parce qu'ils sont tout le temps en train de réparer ta bagnole.
Non,
par rapport à ce qui te facture.
On regarde Glenn, ce qui te fait tout le temps rire.
Il n'est pas humoriste, en même temps.
Pas toujours. Non, mais c'est plutôt. Enfin, moi, je trouve que c'est une excellente pioche. C'est vraiment le truc qui me parle, mais c'est assez subjectif. Mais clairement. Je l'ai pas encore noté, je sais pas si c'est vraiment possible de le faire sur le film, je crois pas.
Le livre, ce sera possible, voilà. Le spectacle, c'est un peu plus chaud.
Mais je lui mettrai un 9 parce que clairement, c'est un des gros coups de cœur. En plus, c'est accessible sur YouTube, donc vraiment, il n'y a aucune excuse pour pas le regarder, quoi.
Alors moi, je pense que
t'as le droit de parler d'un truc qui n'est pas sur Kifilm.
C'est pour ça que j'ai dit au début, j'ai twisté la rubrique.
Et en fait, moi, la question qui m'intéresse, c'est pas tellement finalement si tu lui as mis 9 ou si tu lui as mis 10, parce que le spectacle soit drôle, ça me surprend pas trop. Par contre, est-ce qu'il va te pousser à aller voir son nouveau spectacle en salle?
Oui, clairement.
Alors, si ça c'est le cas, oui, là il a réussi, quoi.
Il passe d'ailleurs à passer dans l'année prochaine, en fait. Ses dates, ça sera 2020. Là, il est en rodage et du coup, ses vraies dates sera 2020 et ils sont déjà annoncés et il passe pas très loin de Rennes.
Et ouais, c'est full ou c'est pas full?
Pour l'instant, c'est pas full.
Le spectacle dont tu parles, c'est enregistré en public.
Ouais.
Donc, ça a été un spectacle dans les salles.
Oui, c'était sa tournée de 2016.
Ouais, mais le mec, il est malin parce qu'il le publie maintenant, justement, gratuitement, parce que finalement, le spectacle, il est mort, il a passé la période où il peut lui rapporter du fric. Donc, il te le met gratos, en mode, viens me voir, je suis drôle.
Non, mais puis de toute façon, c'est pas caché, hein, c'est en description de sa vidéo, en gros, en capital, nouveau spectacle.
Oui, bah voilà.
Inédit,
oui, c'est de la promo. Mais c'est de la super promo.
Mais c'est de la super promo, et encore une fois, enfin. Je trouve que c'est une des. Enfin, de base, de toute façon, Bref, Bloqué et Serge, qui étaient ces séries Canal, donc où on pouvait se dire qu'il y avait une sorte de truc un peu genre on le garde chez nous et tout ça, ça dispose sur YouTube gratuitement aussi. Donc de toute façon, il a cette démarche.
Bref, ils ont mis du temps.
Ils ont mis du temps. Mais
le jour où ils l'ont fait, je me le suis tous retapé. Donc,
ouais. Donc oui, ça marche, ça donne envie de voir le reste. Et puis, je trouve que c'est un mec super attachant.
T'as toute une...
qui match dans notre culture, clairement.
C'est parce qu'il a maigri.
Non, non, mais à un moment donné, il raconte un peu une anecdote de, en gros, avec sa première nana, il va la voir et puis il explique très rapidement que, en gros, ça se passe pas comme il voudrait et qu'elle part. Et pour expliquer la scène, il fait, vous voyez, c'est un peu comme les Simpsons, quand il y a quelqu'un qui part au loin dans le pays, dans le décor, qui monte dans un bus, et puis on voit le bus qui continue, et puis il s'arrête, il y a une discussion dans le bus, et puis en fait, nous, on reste du point de vue du spectateur, et on voit cette scène se passer, quoi. Donc il a plein de petites gimmicks comme ça, de trucs où
tu dis, oh, j'aurais pu penser ça.
Tu t'as les références, quoi, et tu... Enfin voilà, c'est un mec qui a la trentaine.
Il s'inscrit dans une génération... de nouveaux mecs qui font du stand-up,
ouais.
Qui sont en fait quasiment mi-youtubeurs, mi-stand-uppers. Ouais. Stand-uppers, je sais pas si on dit ça, mais tu vois, moi j'ai un gros coup de cœur sur un mec qui s'appelle Verino, qui fait du stand-up et qui publie en fait il fait un truc, ça s'appelle Vous avez encore 5 minutes, et en fait à la fin de ses spectacles, en live, il enregistre 2-3 sketchs dos au public, face caméra, et il diffuse ça sur YouTube. Alors déjà, c'est à mourir de rire, et enfin clairement, moi je suis accro à mort, et par contre j'ai voulu du coup aller voir en salle, et 2020 a passé, c'est plein. Mais ce mec, moi, m'a fait mourir de rire, et c'est pareil, c'est le même mix YouTube stand-up, putain, qui marche à mort, et ils sont j'ai pas d'autres noms, mais je sais qu'il y a d'autres mecs qui font ça. C'est en train de... Ils sont en train de s'accaparer voilà, un nouveau média. Et c'est cool parce que c'est des mecs qui ont de la créativité à revendre. Quoi.
Bah c'est ça, c'est que lui, clairement, il est vachement lettré, érudit dans toute cette dimension des mecs qui font du stand-up et notamment, évidemment, les Américains. Il est pas, pour le coup, il n'est pas très youtubeur, quelque chose dit. Par contre, il a été guest dans une chiat
de
trucs.
Il
a écrit beaucoup de choses
il
aussi
avec Navo. Voilà.
Donc, il est dans cet univers-là, clairement. Ouais. Et il sait servir de ces outils-là. Mais il est vachement. Et, pour comparer à d'autres, je le trouve vachement plus reposant, entre guillemets, qu'un Baptiste Le Caplin, par exemple,
ouais.
Qui est survolté sur scène.
Il est fatigant, mais
qui est
drôle.
Qui est très drôle, mais.
Accidentellement drôle, ce mec.
Ouais. Il a une énergie incroyable.
En même temps, c'est travaillé, quoi.
Ouais, ouais. Donc voilà, Pulsion sur YouTube, foncez-y, c'est.
Pas vraiment filmé en temps, merci.
Non, mais ça prend le temps d'un film.
Moi, j'ai vu un extrait aussi, je trouvais ça très bien.
Ouais, mais je vais le regarder, c'est sûr. Moi, déjà, je suis un. Enfin, bref, c'est un truc, tu le regardes, 3 mois après, tu trouves ça peu. Tu dis, oh, je m'en remets un ou deux parce que j'ai envie de rigoler, puis au bout de 12, tu fais bon, peut-être que je reprenne le boulot. Quoi.
Et
je trouve qu'il avait en plus, il avait remis le couvert avec Serge Le Mito. Parce que Bloqué, moi, ça m'avait laissé très, très indécis. C'était très inégal. Mais Serge Le Mito, bravo l'interprétation du mec aussi, mais qu'est-ce que c'était bien écrit et joué. C'était incroyable ce truc. Quoi. Et le mec, en fait, il arrive à te faire d'une idée d'un coin de banc. Attends, et là, le mec, il raconterait que des conneries.
Ouais.
Et boum, il t'en fait une série.
Mais
bref, c'est ça.
C'est l'interprète.
Bloqué, c'est ça. Il arrive à te faire de l'or avec une matière première bidon, quoi.
Et ça rejoint le truc, c'est que, et moi j'avais trouvé ça génial, dans Serge Le Mito, t'as aussi cette progression un peu dramatique. Enfin, le dernier épisode de Serge Le Mito est incroyable de ce point de vue-là, quoi. C'est-à-dire que vraiment, au début, c'est une comédie où le mec, en effet, raconte des bobards et tu dis, putain, ce mec est trop, quoi. Et en fait, petit à petit, tu pars de ce personnage presque cartoonesque à un mec dans la vraie vie qui est prisonnier de ça, ouais. Et qui, voilà, le dernier épisode, il te sert un truc où tu chiales, quoi. Et c'est magique. Quand t'arrives à faire ça, c'est magique.
Et on a complètement dévié.
Ok. Parce que là, on est autour de Kian, quand même.
Oui, certes. Mais on va finir par aborder les sujets de la potentielle
la
semaine prochaine.
T'as la vraie fin de Bref dans Serge Le Mito.
Et ben moi j'ai pas regardé Serge Le Mito, donc il faut que j'essaye. En fait, je crois que c'est Bloqué qui m'a bloqué, et du coup j'ai pas regardé Serge Le Mito.
C'est particulier. Ouais.
Bon, on a bien parlé film là. Merci messieurs.
Merci à toi.
On se dit à la semaine prochaine.
Carrément.
Et on se retrouve pour parler série.
Et n'oubliez pas d'aller sur Kifim, enregistrez-vous, commentez, partagez.
Yes.
On vous attend.
On attend vos commentaires sur tous les films.
Absolument tous
de l'Antiquité.
Ça va vous occuper un moment. Allez, bonne soirée,
ciao.
Salut,
ciao.